Chapitre 27. L'autel d'airain. L'ordre des communications divines. Avant d'entrer dans les détails qui concernent l'autel d'airain et le parvis, dont ce chapitre va nous occuper, je voudrais attirer l'attention du lecteur sur l'ordre suivi par le Saint-Esprit dans cette partie du livre de l'Exode. Nous avons déjà fait remarquer que les chapitres 25, 26 et 27, versets 1 à 19, forme une division distincte qui nous donne la description de l'arche et du propitiatoire, de la table et du chandelier, des couvertures et des voiles, et enfin de l'autel d'airain et du parvis où cet autel était placé. Dans trois passages ultérieurs, chapitre 35 verset 15, 37 verset 25 et 40 verset 26, il est fait mention de l'autel d'or du parfum entre le chandelier et l'autel d'airain. Tandis que, lorsque l'Éternel donne les instructions à Moïse, l'autel d'airain est introduit immédiatement après le chandelier et les couvertures du tabernacle, et l'autel d'or n'est mentionné que plus tard. Chapitre 30, verset 1. À cette différence, il doit y avoir une raison divine qu'il vaut la peine de rechercher. Pourquoi donc, lorsque l'Éternel donne des directions sur l'arrangement et les ustensiles du lieu saint, omet-il l'autel des parfums pour passer immédiatement à l'autel d'airain qui était à l'entrée du tabernacle? Voici, je crois, la pensée de Dieu à ce sujet. Il décrit d'abord la manière dont lui-même se manifesterait à l'homme, ensuite il nous apprend de quelle manière l'homme pourrait s'approcher de lui. Il prend place sur le trône, comme le Seigneur de toute la terre, Josué 3, verset 11. Les rayons de sa gloire étaient cachés derrière le voile, type de la chair de Christ, Hébreux 10, verset 20. Mais en dehors du voile, il y avait la manifestation de lui-même en tant que lié avec l'humanité dans la table et les pains de proposition, et par la lumière et la puissance du Saint-Esprit dans le chandelier. Ensuite vient le caractère de Christ comme homme descendu sur la terre, représenté dans les voiles et les couvertures du tabernacle, et finalement l'autel d'airain, emblème du lieu où se rencontrent un Dieu saint et un homme pécheur. Nous arrivons ainsi au point extrême, d'où nous retournons vers le lieu saint avec Aaron et ses fils, qui avaient leur place habituelle, comme sacrificateurs, là où était l'autel d'or du parfum. Tout cet ordre est d'une beauté remarquable. Il n'est pas question de l'autel d'or avant qu'il y ait un sacrificateur pour y brûler l'encens. L'Éternel montra à Moïse les images des choses qui sont dans les cieux selon l'ordre dans lequel ces choses doivent être saisies par la foi. D'un autre côté, quand Moïse donne des ordres à la congrégation, chapitre 35, quand il raconte les travaux de Betsaléel et d'Oholiab, chapitre 37 et 38, et quand il dresse le tabernacle, chapitre 40, il suit simplement l'ordre dans lequel les ustensiles étaient réellement placés. L'autel. Passons maintenant à l'autel d'airain. C'était le lieu où le pécheur s'approchait de Dieu en vertu du sang de l'expiation. Il était placé à l'entrée du tabernacle, et c'était sur cet autel que le sang des sacrifices était répandu. Il était fait de bois de sittim et d'airain, du même bois que l'autel d'or du parfum, mais d'un métal différent. La raison en est évidente. L'autel d'airain était le lieu où Dieu prenait en compte le péché selon le jugement qu'il portait sur lui. L'autel d'or était le lieu d'où le parfum représentant tout ce qu'il y avait d'excellent en Christ montait jusqu'au trône de Dieu. Le bois de sittim, comme figure de l'humanité de Christ, devait se trouver dans l'un et dans l'autre. Mais dans l'autel d'airain, Christ rencontre le feu de la justice divine, et dans l'autel d'or, il nourrit les affections divines. Le premier de ces autels est caractérisé par le feu de la colère divine, le second par celui du culte sacerdotal. L'âme jouit de trouver Christ dans l'un et dans l'autre. Mais l'autel d'airain est ce qui répond aux besoins d'une conscience coupable. C'est la première chose qu'il faille à un pauvre pécheur, sans force et convaincu de péché. La conscience ne peut jouir d'une paix stable, solide, avant que l'œil de la foi repose sur Christ tel que l'autel d'airain le présente. Il faut que je voie mon péché réduit en cendres par le feu de cet autel avant de pouvoir jouir de la paix de la conscience dans la présence de Dieu. C'est quand je sais, par la foi au témoignage de Dieu, que Dieu lui-même a jugé mon péché dans la personne de Christ à la croix, qu'il a lui-même satisfait à toutes les justes exigences de sa gloire, qu'il a ôté mon péché pour jamais de devant sa sainte présence, c'est alors et seulement alors que je puis jouir d'une paix divine et éternelle. L'or et l'airain. Je ferai ici une remarque sur la signification de l'or et de l'airain dans les ustensiles du tabernacle. L'or est le symbole de la justice divine ou de la nature divine dans l'homme Christ Jésus. L'airain est le symbole de la justice demandant le jugement du péché, comme dans l'autel d'airain, ou le jugement de l'impureté, comme dans la cuve d'airain. Chapitre 30, verset 18. Ceci explique pourquoi, dans l'intérieur de la tente du tabernacle, tout était d'or. L'arche, le propitiatoire, la table, le chandelier, l'autel de l'encens. Toutes ces choses étaient les symboles de la nature divine, de l'excellence personnelle du Seigneur Jésus. D'un autre côté, en dehors de la tente du tabernacle, tout était d'airain. L'autel et ses ustensiles, la cuve et son soubassement. Il faut que les exigences de la justice à l'égard du péché et de la souillure soient divinement satisfaites avant que l'on puisse jouir des précieux mystères de la personne de Christ tels qu'ils sont révélés dans l'intérieur du sanctuaire de Dieu. C'est quand je vois toute impureté et tout péché parfaitement jugé et lavé que je puis, comme sacrificateur, m'approcher et adorer dans le saint lieu et jouir de la pleine manifestation de la beauté et de la perfection de Christ. Le lecteur trouvera un grand profit à poursuivre cette pensée dans les détails, non seulement dans l'étude du tabernacle et du temple, mais aussi dans celle de divers autres passages de la parole. Ainsi, par exemple, dans le chapitre 1 de l'Apocalypse, Christ apparaît ceint aux mamelles d'une ceinture d'or, et ayant ses pieds semblables à de l'airain brillant comme embrasé dans une fournaise. La ceinture d'or est le symbole de sa justice intrinsèque. Les pieds semblables à de l'airain brillant sont l'expression du jugement inflexible du mal. Dieu ne peut tolérer le mal. Il faut qu'il l'écrase sous ses pieds. Tel est le Christ auquel nous avons affaire. Il juge le péché, mais il sauve le pécheur. La foi voit le péché consumé à l'autel d'airain. Elle voit toute impureté lavée à la cuve d'airain. Elle jouit de Christ tel qu'il est révélé dans le secret de la présence divine par la lumière et la puissance du Saint-Esprit. Elle le trouve à l'autel d'or dans toute la valeur de son intercession. Elle se nourrit de lui à la table d'or. Elle le reconnaît dans l'arche et le propitiatoire comme celui qui répond à toutes les exigences de la justice et qui, en même temps, répond à tous les besoins de l'homme. Elle le contemple dans le voile et la tente avec tous leurs tissus et leurs broderies. Que nos cœurs sachent apprécier et louer un Christ si glorieux. Il est de la plus haute importance d'avoir une intelligence claire de la doctrine dont l'autel d'airain est le type. C'est le manque de vue nette à cet égard qui fait que tant d'âmes passent leur vie dans la tristesse. La question de leur culpabilité n'a jamais été pour elles clairement et positivement réglée à l'autel d'airain. Elles n'ont jamais réalisé par la foi que Dieu lui-même a réglé à la croix toute la question de leur péché. Elles cherchent la paix pour leur conscience troublée dans la régénération et dans les évidences de la régénération, dans les fruits de l'esprit, dans leurs dispositions, leurs sentiments et leurs expériences, toutes choses excellentes par elles-mêmes, mais qui ne sont pas le fondement de la paix. Ce qui remplit l'âme d'une paix parfaite, c'est la connaissance de ce que Dieu a fait à l'autel d'airain. Les cendres sur l'autel m'apprennent la bienheureuse nouvelle que tout est accompli. Les péchés du croyant ont tous été effacés par la main de l'amour rédempteur. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait péché pour nous afin que nous devinssions justice de Dieu en lui. 2 Corinthiens 5, verset 21. Tout péché doit être jugé, mais les péchés du croyant ont déjà été jugés à la croix. Ainsi, il est parfaitement justifié. Supposer qu'il puisse y avoir encore quoi que ce soit qui soit susceptible de compromettre le salut du croyant le plus faible, c'est nier l'œuvre entière de la croix. Tous ses péchés et toutes ses iniquités ont été ôtés par Dieu lui-même. C'est pourquoi ils sont entièrement effacés. Ils ont disparu dans le sang de l'agneau de Dieu.